Aujourd'hui, on va finir le livre de Shoftim. Ok, donc les Shoftim, c'est les juges. Et la semaine dernière, on a parlé de l'histoire de Shimshon. On a raconté toute l'histoire de Shimshon, mais tout le monde m'a demandé des questions et j'ai dit que j'ai juste... D'abord, je raconte et après, on essaie d'expliquer. On a raconté que Shimshon, en bref, on a raconté que Shimshon, lui, c'était un juge très fort et il allait avec des femmes non-juives. Okay, il s'est marié avec des femmes non-juives et de Pelishtim. Et donc, tout le monde m'a demandé... Lui, c'était un juge, c'était un tzaddik qui jugeait le monde et tout. Comment c'est possible qu'il allait chercher des femmes non-juives alors qu'il y avait des femmes juives? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rambam nous dit, aussi bien pour Shimshon, aussi bien pour Shlomo HaMeler, qu'ils les ont convertis. Shlomo HaMeler, pas comme les gens, ils se trompent. On sait que Shlomo HaMeler, il avait beaucoup de femmes. Et c'est des femmes non-juives. Non, il les a converties. Comme ça, le Rambam, il écrit explicitement. OK ? Et Shimshon aussi, il les a converties. Comme ça, le Rambam nous dit. Donc, il les a converties. Donc déjà, ça nous a enlevé un petit poids. Donc, les femmes étaient converties. Donc, il n'est pas allé sur une femme non-juive. Il n'est pas allé sur une femme non-juive. Il est allé sur des femmes juives. Ça, c'est un. Maintenant, mais pour expliquer, mais quand même, OK, mais pourquoi il ne se marie pas avec une fille de Beth Yaakov, une fille de chez nous, quoi ? Pourquoi il a besoin d'aller chercher? On avait expliqué qu'il a demandé à son père, il se promenait en Pelishtim, il voit une belle femme comme ça, il dit c'est ça là. Ses parents ils disent mais c'est ça là, mais nous on t'a éduqué au cheder, on veut une fille de chez nous. Non, c'est ça là. En fait, Hachem il avait envoyé un message qu'il fallait s'infiltrer, comme on a dit, pour agir de façon loup solitaire. C'est-à-dire genre je défonce tout le monde. Mais pas après qu'il y a une responsabilité sur le peuple juif. Moi, j'arrive, je me marie, j'ai une embrouille avec une femme, et ça fait que je défonce je tue plein de monde, et on a gagné du temps avec ça. Donc Shimshon, lui, son truc, c'était de jouer le loup solitaire, de frapper le maximum de monde. Donc on a dit qu'il a tué 1000 personnes, 30 personnes, après 1000, et après, quand ils l'ont crevé les yeux, donc on a dit qu'il était dans le palais où il y avait tous les Pelishtim, et c'était un grand jour, ils remerciaient leur idole, et c'est là qu'il a dit Cheskenina, renforce-moi s'il te plaît, même à pas amaser, je suis prêt à mourir, mais au moins renforce-moi et que je puisse faire un méga kiddush Hashem. Et Hashem lui a donné la force, il a cassé les piliers, tout est tombé, il a tué plus de personnes qu'il a tué dans... Et lui, il est aussi mort. Il a tué plus de personnes dans sa mort que dans sa vie. Comme ça, le narque dit, et ça finit. On finit le Shoftim. Alors, je vais expliquer. Pour expliquer ça, c'est quoi l'histoire de Shoftim? C'est quoi l'histoire de Shlomo? C'est quoi l'histoire de comment comprendre ça? En fait, ça commence. On va commencer par le début. Adam Harishon, quand Hachem l'a créé, c'était le seul homme. Il n'y avait pas de femme. Et Adam Harishon, il avait un but. Au début, il avait un but de ne pas manger le Etz Hadat. Le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Cet arbre-là, il y a écrit Yodea Tov Vara. C'est-à-dire que cet arbre-là, il y a le bon et le mal. Okay? Cet arbre-là, il a le bon et du mal. Ça veut dire quoi? Alors, j'explique comme ça. Hachem, il a créé du bien et il a créé du mal. Bon, alors les philosophes vont dire, est-ce que Hachem, il a créé le mal ou bien le mal, c'est juste un manque de bien, mais ce n'est pas du mal. Bon, on ne va pas rentrer dans ces discussions, mais en tout cas, la Torah dit Tov Vara, ok? Est-ce que c'est l'absence du mal? Ouais, l'absence du bien, ça fait du mal. Mais en tous les cas, Hachem, il a créé, donc Hachem, il a créé du Tov et du Ra. Et donc, de la même racine, il y a le bon et le mal. Adam Harishon, comme le bon, il a besoin de vie, il a besoin de vivre, le mal aussi, il a besoin de vie. Il a besoin de ce qu'on appelle du carburant. Le mal aussi, il veut du carburant. Et ce mal-là, pour vivre, il lui faut de la vie. Ok, donc le mal, il est toujours à la recherche de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est le tov, c'est le bon. Ok, donc il est toujours, son carburant, en fait, il se nourrit du bien. Chaque fois quelque chose de bien, il essaye de l'attraper, le mal. Ce qu'on appelle, ce qu'on connaît, le sitra hara, la force, toute la force du mal. Il essaye d'attraper comme ça et comme ça il se nourrit. Si Adam Arishon, écoutez bien ça, parce que j'ai bien compris ça maintenant, c'est si Adam Arishon n'ait pas mangé le Etz Hadaat, il s'était retenu, il y avait le mal et il y avait le bien. Si c'était retenu, il n'avait pas mangé le l'arme, en fait le mal, il n'aurait pas eu de carburant et donc il serait mort et donc il y aurait eu ce que Hachem il voulait et donc il y aurait eu le Tikkun HaShalem et ça serait fini. On ne sait pas ce qui serait passé, mais en tout cas, ça serait une autre dimension. Le problème, c'est qu'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait ? Adam Arishon, en mangeant le Etz Hadaat, il a mélangé le mal avec le bien. C'est-à-dire quoi ? Quelque part, il a donné au mal du carburant, du bon. Maintenant, le mal, il a dû manger. Okay ? Donc comme il a dû manger, ça fait que maintenant, il est rentré dans un système que le mal, comme il a du carburant, donc il a la force. Une voiture, si tu mets de l'essence, elle a la puissance. Elle n'a pas d'essence, elle ne démarre pas. Donc le mal, maintenant, lui aussi, il a de la force. Et comme il a la force, il va influencer sur toi, sur le monde, et ça va lui donner la force, et il va continuer à faire des catastrophes. Vous avez compris jusqu'à là ? Écoutez, ça, c'est un yesod. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que le mal, aussi, il a besoin de carburant. Adam Arishon, écrit dans les rouvines de la Filtret, Adam Arishon, après qu'il a fauté, il s'est mis en idouille, comme on a déjà parlé, il s'est mis en quarantaine 130 ans. Adam Arishon, il s'est mis en quarantaine 130 ans. Et pendant 130 ans, il a fait tchouva. Personne n'a fait autant qu'Adam Arishon. Il n'y a que Adam Arishon qui a fait autant de tchouva. On dit Adam Arishon et David, c'est le tikkun d'Adam Arishon. Bon, mais en tout cas, Adam Arishon, il a fait une tchouva de 130 ans et il a pris des branches de figues, il se frappait pendant 130 ans. Mais entre autres, il a eu des sorties, des semences, comment on appelle ça en français ? Pollution nocturne, une sortie nocturne du Zera Levatala. Et comme il a sorti des choses en vain, ça fait qu'il a créé plein de Ruchin, Lilim, Veshedim, comme ça que m'a dit. Ce qu'on appelle les Shindalet, ouais, il a créé des forces, des démons, des forces de mal. Ça veut dire quoi, il a créé les forces du mal ? C'est-à-dire que maintenant, vous savez que dans le zéra, ce qu'on dit en le sperme, quoi, si on le prend, je ne sais pas comment, peut-être au microscope, on peut voir la forme d'un homme. C'est-à-dire que quand il sort, ouais, s'il ne va pas dans l'endroit où il faut qu'il aille, ouais, chez la femme, quand il sort, aussi, c'est une neshama. Ne croyez pas que ce n'est pas une neshama, c'est oui une neshama. Mais souvent, cette neshama, au lieu de rentrer chez une femme, cette neshama-là, elle est là, elle se promène dans tout le monde.
Mais il y en a plein de
neshama
dans le
sperme. Ouais. Non, c'est...
Ah, l'enfant qui devait...
Voilà, c'est une neshama. Je ne sais pas comment calculer, mais en tout cas, c'est au moins une. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, il y a une. Donc, il y a plein... Imaginez-vous qu'il y a plein de neshamot, ouais. Il y a plein de neshamot qui se trouvent dans... Il y a des neshamot en virtuel comme nous, et il y a des neshamot qui se trouvent dans le monde qu'on ne les voit pas. Ces neshamot-là, ça donne, c'est le carburant de la force du mal. Vous êtes d'accord ? La force du mal, elle les aspire. La force du mal, elle a un aspirateur, parce qu'elle a besoin de vie. Comment elle se nourrit ? Elle se nourrit avec tous ces trucs-là. Avec toutes ces choses-là, ces neshamot-là, elle se nourrit. Tu donnes la vie à la force du mal. Et comme tu donnes de la vie à la force du mal, donc ça fait que maintenant, la force du mal, le mal, il a de la force, et donc il va t'influencer à continuer à faire du mal, à faire du mal au monde, et ça va être des catastrophes. Donc regardez cette responsabilité. On sait que sortir du Zera Levatala, allô, il y a plusieurs façons. Il y a la façon qu'une personne, elle allait dormir et c'est sorti. Il n'a pas rêvé, il ne se rappelle pas d'un rêve et c'est sorti. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est le système de... Des fois, quand on mange beaucoup, on est fatigué, ou des fois, quand on est jeune, donc le système commence à marcher. Ouais. Donc, il y a des pollutions. Mais il y a des fois qu'on regarde une femme et on pense à elle, on regarde des choses pas jolies, et la nuit, on pense à ça, et qu'est-ce qui se passe ? On fait ça. Ça, c'est grave. Ça, c'est déjà grave, c'est un issur d'oraita. Et après, il y a la chose la plus grave, c'est se sortir tout seul. Bon, je ne parle pas de ça. OK ? Mais tout ça, donc le problème de donc tout ça, c'est ça s'appelle Zera Levata. Je vais expliquer. Une personne, après je reviens sur ça. Adam Arishon, lui, il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas rêvé. Il a eu des sorties. On ne sait pas pourquoi, mais il a eu des sorties. Ces sorties-là, ils ont engendré beaucoup, beaucoup de Neshamot. Plein de Neshamot. 130 ans. Tous ces Neshamot, ils sont éparpillés un peu dans tout le monde. OK ? Donc maintenant, tout notre travail, c'est quoi ? Jusqu'à la fin des 6000 ans, de récupérer tous ces Neshamot. Mais récupérer ces Neshamot, ce n'est pas facile. Parce que pour récupérer ce carburant-là, la force du mal, elle a besoin de ce carburant-là. Elle a besoin. Donc, il faut faire quelque chose qu'on mérite. Ouais, ça se paye pour l'avoir. Avant de dire ça, on voit par exemple dans le temps du Maboul, c'est quelque chose de joli. Il y a écrit « Va'aretz malea chamas mipenem » Chamas. « Chet mem sa mère ». Chet mem sa mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Comment on écrit ? Vous savez que la force du mal, on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis « Sama ma'el ». C'est sa mère même. Vous connaissez la force du mal, sa mère même. Et après, il y a quel, Aleph Lamed. Sa mère même, c'est des lettres qui sont mauvaises. Et il y a quel, c'est le nom de Dieu. Ok ? Maintenant, le serpent, le Nahash, lui, c'est le pigeon de ce Samael. Lui, c'est la voiture, quelque part, de ce Samael. Et donc, maintenant, si vous regardez dans les mots du Nahash, le serpent, il a un Nun qui ne nous dérange pas, un Shin qui ne nous dérange pas, c'est des lettres sympas. Mais le chet, c'est la chaîne faute, ça me dérange. Donc si tu prends le samer de Samamael, le même de Samamael, tu prends le chet du Nahash, qu'est-ce que ça nous fait ? Hamas. Dit le Baal Shem Tov, la terre, elle est devenue Hamas. Ça veut dire quoi ? Les gens, ils ont tellement péché qu'il n'y avait que du mal et il ne restait plus de bien. Donc le mal, il n'est plus de carburant. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de carburant ? Le monde se détruit. C'est ce qu'il voulait faire Hachem, il voulait détruire le Maboul. Vient Noach et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une Teva. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait la Teva ? Dans la Teva, c'est quoi les mesures de la Teva ? Qu'est-ce qu'il nous reste comme lettre ? On a dit, il nous reste un Aleph, c'est un. Un Lamed, donc quel ? De Samael. Aleph, Lamed, le Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, le Noun c'est 50 et le Shin c'est 300. C'est combien la Teva, les chiffres, les mesures de la Teva ? On a 300, on a 30, on a 1 et on a aussi, qu'est-ce qui nous manque ? 50, on a 50. Si vous regardez, on a tous ces tailles-là. C'est-à-dire que Noir, quelque part, il a remis, il a essayé de remettre ces lettres qui sont positives en marche pour remettre le monde en marche. Donc rappelez-vous, donc dès qu'il n'y a plus de carburant, il y a un problème. Donc c'est joli, non ? The Baal Shem Tov, on le voit déjà. Comment ce Baal Shem Tov, c'est magnifique. Moi, j'ai pleuré. Bon, ça ne vous a pas fait pleurer, mais moi, j'ai pleuré quand je suis ridouche. C'est-à-dire qu'on voit comment c'est vrai ce qu'on dit, que la force du mal a besoin de carburant. Je continue. Donc, pendant 130 ans, il a envoyé plein de ce qu'on appelle, ce que le Harizal, il appelle, ce que les Rodvash, un autre Sefer, ouais, ce que le Chayadam, le Harizal dans la Kabbale, on dit, ça s'appelle Nitzotzot. C'est les étincelles, ce qu'on appelle. Donc il y a plein de Neshamot qui sont allés un peu de partout. Maintenant, notre travail, c'est de les récupérer. Qu'est-ce qui se passe ? Où ils sont allés ? Une tonne de Neshamot, vous savez où ils sont allés ? En Égypte, en Mitzrayim. Pourquoi ? Vous savez que l'homme, dans la Kabbale, l'homme, même le monde, il a la forme de l'homme. Ouais, dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle Esser Sfirot. Par exemple, on a Chesed, Avram c'est Chesed, Gvura Din, tu vois ? C'est la tête, après le corps, Yosef, c'est l'endroit là-bas, c'est la Mila, ouais. Après, on a la Malchut, ouais, on a la Malchut, on a plein de choses. Comme l'homme, ouais, donc la forme de l'homme, elle est aussi dans les Midot, dans le comportement, mais elle est aussi dans la terre, le monde, il a la forme de l'homme. Et l'endroit de la Mila, l'endroit l'endroit du milieu, ouais, c'est... Mitzrayim, on appelle ça Erva Taharet. Dans la Torah, ça s'appelle Erva. Erva, c'est l'endroit de la nudité. Donc Mitzrayim, c'était l'endroit de la nudité. Donc où il se trouve le plus de Neshamot ? En Égypte. Écoute, ça, c'est magnifique. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Sarah, la première, elle arrive. Elle arrive comme ça. Et voilà qu'on la kidnappe. Paro, il la kidnappe. Paro, c'est un milliardaire. Paro, c'est un type super important. Il a du kavod, ouais, c'est un roi d'Égypte. C'était que l'Égypte, c'était la grande force. Et Paro lui promet plein de choses. Ne croyez pas que Sarah, elle n'avait pas de Yitzhara, elle n'avait pas d'envie. Bien sûr que ça donne envie. Peut-être que le type, il était un beau gosse, quoi, on ne sait pas. Donc le type, il lui dit, hey, je veux faire avec toi. C'est quoi de faire avec un roi? Ça va, ça prend... Ouais. Tu passes une nuit et tu es refait. Et tu reçois des valises d'argent, et tu reçois du kavod, l'honneur et tout. Ma baya. Sarah, elle s'est tenue comme ça. Elle a dit, moi, je ne fais pas avec Paro. Je suis mariée, je ne bouge pas. Quand elle a résisté à ce Yetzara-là, elle a réussi à ramener déjà plein de... à aspirer plein de neshamot, parce que ça se paye. Ouais, comme eux, ils veulent du carburant, nous aussi, on peut leur reprendre. Okay, parce qu'ils aspirent, mais on peut le. Si tu as deux aimants, un aimant qui est plus puissant que l'autre, donc tu peux aspirer. Donc Sarah, elle a déjà aspiré. Le deuxième qui arrive, c'est qui? Yosef. Yosef, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande fête, personne à la maison, il y a une femme, une bombe atomique. Le matin et le soir, l'après-midi, chaque fois, trois fois par jour, quatre fois par jour, elle se change d'habit. Ouais, et pas les habits Chanel et Prada, etc. Ouais. Et classe, toujours bien maquillée, toujours top, top niveau. Donc déjà, Yosef, ouais, il avait du mal avec ça. Maintenant, il n'y a personne. OK, elle attrape. OK, quand c'est l'homme qui a envie et la femme, elle n'a pas envie, c'est déjà plus dur. Mais quand c'est la femme qui veut te faire craquer, là, tu es mort. Naron, si toi, tu as envie de ta copine, Khalil, je n'ai pas de copine, mais ta copine n'a pas envie, c'est déjà pas... elle peut réussir à résister. Mais si elle craque, c'est mort. Okay, on sait que la femme, elle a une puissance. Donc maintenant, elle essaye de faire tenter Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il a une envie grave. Il écrit presque, il avait envie de faire. Et voilà, ouais, la gmara en sota, etc. Ouais. Alors bref, je ne raconte pas tous les détails, mais en tout cas, Yosef a résisté. Quand il a résisté, encore des neshamot. Le troisième, c'est qui le troisième qui a réussi? C'est les Bnei Israël. Les Bnei Israël, quand ils sont allés en Égypte, et c'est là qu'ils ont fait...
Ah, grave, parce que ça veut dire qu'il a fait Gzera Nezotah.
Il a choliot, ouais. Ouais, c'est sorti de ses doigts. Ouais. Et à cause de ça, il devait sortir les Shvatim de lui, et à cause de ça, ils ne sont pas sortis. Ah, oui. Donc il a eu une punition. Ouais, bon, c'est, il a pas réussi à résister, quoi. Bon, le Mishali, il faut comprendre ça. Hein? Non, c'est autre chose, ça. C'est autre chose, c'est un autre jour, ça. En tous les cas... En tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire, maintenant? On a dit que maintenant, que donc les prochains qu'ils ont réussi, qu'ils sont venus, c'est les Bnei Israël. Quand les Bnei Israël descendent en Mitzrayim, qu'est-ce qu'ils ont à faire en Mitzrayim? Pourquoi Hachem il décrète qu'ils ont besoin d'être en Mitzrayim? Alors tout le monde va te dire parce qu'ils ont besoin d'apprendre, de faire un stage, comment être serviteur avant de recevoir la Torah. C'est aussi des explications. Mais le Ariza, il dit... que court Mitzrayim. Mitzrayim, c'était l'usine de tous les Nitzotzot. L'usine de les Neshamot. Ouais, Ilan, il y avait plein de Neshamot. Donc ces Neshamot-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aspirer. Comment tu arrives à acheter un grand aimant? Quand ils se recevaient des coups, parce qu'ils n'ont rien fait, les pauvres. Quand on prenait leurs enfants, on faisait des briques avec, chaque fois, ils achetaient avec ça, ils rachetaient avec ça des Neshamot. Et des Neshamot, pendant 210 ans, ils ont cravaché, et jusqu'à qu'ils ont arrivé à quoi? À récupérer tous les Neshamot. Jusqu'à que quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait plus de Neshamot. Donc quelque part, l'Égypte, il y avait du mal sans carburant. Donc, maintenant, il n'y a que du bien, en tous les cas, en Égypte. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte, parce qu'on n'a plus rien à faire là-bas. Parce que là-bas, il y a que du mal là-bas. Il faut pas aller parce que si tu vas, ils vont essayer de t'aspirer là-bas. La Sitra Hara. Ne va plus là-bas. On a fait notre travail. On a vidé ce qu'il y avait à vider. Ouais. Maintenant, il faut aller en Russie. Il faut aller en France. Il faut aller à Marseille, Paris, Nice, Cannes. Mais il y a des Nitzotzot là-bas. Donc, il faut les récupérer. Et tout notre travail, c'est les récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est sorti d'Égypte. Maintenant. La même chose, Shlomo HaMelech et Shimshon. On n'est pas arrivé à Shlomo HaMelech. Shimshon, lui, quelque part, il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il veut aller en Palestine et prendre des femmes? Moi, je vous ai dit pour s'infiltrer. Mais selon la Kabbale, c'est pas qu'il veut juste s'infiltrer. C'est qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant là-bas? Il veut aller récupérer toutes les forces du mal. Ouais, toutes les forces du mal qui est en Palestine. Pourquoi lui? Parce que lui, il est saint. Lui, depuis sa naissance, il n'a jamais bu du vin, jamais, il ne s'est jamais impurifié. Et Il n'a jamais coupé ses cheveux, donc c'est vraiment un Nazir Hachem. C'est un fils de Dieu. Hachem lui a donné la force à lui, à Shimshon. Sa force, directement, il lui a donné. Et donc, ce Shimshon-là, il va en Pélishim, il veut se marier avec des non-juives, mais pas pour kiffer. Pas pour kiffer, Chazé Shalom. Celui qui comprend, celui qui voit le femme... Il ne faut pas voir ces films-là de comment ça s'appelle, Samson et Dalila. Je ne sais plus s'ils les mettent encore, mais il ne faut pas les voir, ces films. Et les 10 commandements, tout ça, il ne faut jamais regarder ces trucs-là. Parce que, après, quand tu regardes ces photos-là, ils te montrent Moshe Rabbeinu. Après, chaque fois qu'on va te parler de Moshe Rabbeinu, dans ta tête, même si tu ne penses pas, dans ton subconscient, tu vas toujours voir qui, Moshe Rabbeinu, avec la barbe comme ça, tu sais, dans les photos, dans toutes les maisons en France, ils ont la fameuse, tu connais ce tableau-là, avec le Moshe Rabbeinu, là, qui avec les tables à loi. Moi aussi, depuis que je suis petit, je l'ai. Et quand j'étais petit, je regardais, je voyais Moshe Rabbeinu, moi. Alors qu'aucun rapport, Moshe Rabbeinu, c'était un beau gosse, non? Non, on ne sait pas, tu vois, Moshe Rabbeinu, tu crois qu'il avait... On ne peut pas le dessiner, on ne sait pas son dessin, on n'a pas de photo. Donc déjà, de regarder ces films de Samson et Dalila, comment il te le présente que Shimshon, tout son désir, c'était les femmes, il adorait ça. Et s'il adorait ces femmes, s'il adorait Shlomo HaMelech aussi, il aimait toutes ces femmes, on n'aurait pas parlé de lui, on aurait parlé de nous. On ne parle pas dans la Torah des gens méchants. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas parler des gens méchants, mais on parle des gens bien. Donc si on parle de Shimshon, il a un petit peu fauté la maladie, qu'il a peut-être un peu trop regardé les gens. Mais on ne peut même pas comprendre ce qu'il a fait. Shimshon, c'est un super tzadik. Si Hachem lui a donné dans les mains de délivrer les Pélishim, et c'est Hachem qui lui a dit de se marier avec ces femmes-là, c'est que maintenant, quand tu rentres dans ce... Quand Hachem te donne cette mission-là, ouais, imagine te dire Hachem, il faut aller arranger ce truc-là. Alors vous tous, vous allez dire, moi aussi j'ai envie de Metaken. Ouais, moi aussi je veux. Ouais, Shlomo HaMelech s'est marié avec plein de femmes. Ben, moi aussi j'ai envie de Metaken le monde. Moi aussi j'ai envie d'aspirer des Nisotsot. Non, non, non. Parce que tu le demandes, tu l'auras pas. C'est-à-dire quoi? Il faut être à niveau. On ne peut pas faire n'importe qui. Parce qu'on sait personnellement que tu vas craquer. Ouais. Pourquoi maintenant on ne fait plus Yiboum? Yiboum, c'est quand un frère, il meurt. C'est lui qui meurt. Il meurt sans enfant. Donc le frère, donc le beau-frère, il doit aller avec sa belle-sœur. Okay, c'est une mitzvah. S'il ne veut pas, il doit cracher avec sa chaussure. Mais d'abord, on lui propose de faire Yiboum, se marier avec elle, la prendre comme femme, pour avoir une descendance avec elle. Pour son frère. Mais s'il ne veut pas, il fait Khalitsa, il crache. Mais en tous les cas, maintenant, on ne fait plus ça. On ne fait plus Yiboum. On fait Khalitsa, on ne fait plus Yiboum. Ouais. Donc les Maasé, il ne faut pas croire qu'il n'y a plus maintenant. Il y a Khalitsa. Il y avait une fois un copain de l'Eshva de Kol Torah. Il traversait Givat Shaoul, là-bas, il traversait la rue. Il s'est fait renverser le pauvre. Il venait de se marier. Écoutez, il venait de se marier. Tac, il est mort. Voilà, un copain à moi, il s'est fait renverser par une voiture. Bon, il a traversé n'importe comment, mais il s'est fait renverser par une voiture. Et c'était la nuit, on ne voit pas bien là-bas. Et sa femme, maintenant, le problème, c'est que sa femme, elle n'a pas d'enfant. Donc elle doit faire Yiboum. On ne fait pas Yiboum, il faut faire Khalitsa. C'est-à-dire, si maintenant sa femme, elle veut se remarier, parce qu'elle était jeune, elle venait de se marier, elle avait 5-6 mois de mariage. La pauvre, elle ne va pas rester comme ça, elle aime son mari, mais 5-6 mois, on ne se connaît pas, tu vois, il faut se remarier. Maintenant, elle veut se remarier. Écoutez, on lui dira Botaï, mais il faut que je fasse Khalitsa. Ok, pas de problème, on fait Khalitsa. Non, mais Khalitsa, pour faire Khalitsa, le frère qui a ton cher mari qui est Nifta, il n'a même pas 9 ans. Donc il faut attendre un certain âge pour faire Khalitsa. Tu veux pas faire Khalitsa? Ouais. Ouais, Nirali a la bar mitzvah, ça fait. En tous les cas, attends, donc elle doit... Et Mina Shamim, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle était enceinte. Donc, puisqu'elle était enceinte, donc elle peut se remarier, quoi. Elle a juste besoin d'attendre 3 mois pour savoir entre un mariage et un autre. Mais en tous les cas, bon, Hachem, elle n'a pas pu faire ça. Est-ce que c'est mieux de ça ou ça? Je ne sais pas. Ouais, d'avoir un bébé comme ça, sans mari. Bon, on ne va pas rentrer dans ce dossier-là. Mais en tous les cas, on ne fait plus Yiboum. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont plus à ce niveau-là de se marier avec la belle-sœur pour la mitzvah. Ils vont le faire pour le kiff. Mais pas pour la mitzvah, ok? Donc ça c'est un truc. Donc on voit que quoi? J'étais en train de vous dire combien c'est important de qu'est-ce qu'il fait Shimshon? Il fait pas n'importe quoi. Shimshon, il veut enlever toute la force du mal. Arrête, le but du monde c'est d'aspirer. Et donc lui son but c'est d'aspirer d'aller en Pélishtim. Mais Pélishtim, rappelez-vous que le fils de Ham c'est qui? C'est Mitzrayim. Et Mitzrayim, il a eu Pélishtim. Donc il y a oui un kesher avec Mitzrayim et Pélishtim. Donc tu vois que c'est pas n'importe qui peut aspirer de ces forces-là, c'est Shimshon. Donc Shimshon, il va et il aspire. je continue. Donc, comme je dis, faire du... Vous allez me dire, alors... Vous allez me poser une question. OK, alors, Rav, moi, je... Lui, il sort... Quand il sort du... Il sort du Zera Levatala, il sort des trucs nocturnes. Alors, bon, il a donné du carburant. Mais, et moi, si je ne sors pas, je n'ai pas donné du carburant, mais bon. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire et je ne fais pas, je n'ai pas donné de carburant, mais quoi ? Alors, il ne faut pas croire que... Mais quoi ? Une personne... Ne croyez pas qu'une personne qui ne fait pas, il reste parvé, il reste en mode normal. Il s'élève. Quand tu ne fais pas, tu t'élèves encore plus. Ne crois pas qu'Hachem, il te facture pas ça. Hachem, il facture chaque chose, il t'élève. Le stapler, il dit que quelqu'un qui ne s'abîme pas, ce n'est pas que juste il ne s'abîme pas. Il monte de niveau. OK ? Comment je veux le montrer ? Je vais vous montrer de la paracha, par exemple. Je pense... Et qu'est-ce qu'on voit que... On voit que Esav, lui, il y a Esav et Yaakov. Esav, il y a deux personnes qu'on les appelle Admoni, des rouges, genre. C'est Esav et David Améler. Esav, dans son caractère, dans sa nature, c'était un type qui adorait les femmes. Il avait une puissance et une envie des femmes, grave. Il avait envie de tuer, mais grave. Ouais, pas tout le monde a envie de tuer. Pas tout le monde a envie de faire des bêtises avec des femmes. Ok, tu as envie d'avoir une femme, mais de dire à les violer, ça c'est autre chose, tu vois. C'est des envies que tu n'en peux plus, tu vois. Esav, il était très chaud. Non, il était chaud pour tuer, chaud pour faire la Avodah Zara. Il adorait tout. Tout ce qui bougeait, il adorait. Non, c'est vrai. Esav, il avait une envie grave. Sa nature était comme ça, mais depuis sa naissance. Non, le travail de Eliezer, le travail de Esav, c'est de quoi ? C'était quand il est né, bien, il avait cette force. Mais cette force-là, au lieu de lui mettre, au lieu de le mettre du côté du matériel, c'est de ce matériel-là le prendre et le sanctifier vers le spirituel. C'est ça son travail à Esav. C'est-à-dire que Esav, il devait aider Yaakov, il devait toujours étudier la Torah. Et Esav, c'était s'occuper de ce monde-là et aider Yaakov à étudier la Torah. De s'occuper de ce monde, par exemple, je plante tous ces d'Hachem, j'ai ça, c'est d'Hachem. Mettre toujours des intentions, Hachem. Et Esav n'a pas réussi à faire ça. Puisqu'il n'a pas réussi à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Yaakov, il est obligé de venir et de lui racheter la Bechorah, c'est la paracha de la semaine. Parce que puisque tu n'es pas capable de faire ton travail, donc moi je suis obligé de venir m'occuper de ce monde-là. C'est pour ça que Yaakov, il sort du Beit HaMidrash et il va travailler pendant 7 ans, encore 7 ans, ouais. Il va travailler, mais il n'était pas fait pour ça, Yaakov. Il était fait pour étudier. Mais en achetant la Bechorah, il est obligé d'aller travailler. La fille Léa, elle avait des yeux rouges, ternes. Pourquoi ? Parce qu'elle pleurait. Parce que tout le monde disait Léa, c'est pour Esav, et Rachel, c'est pour Yaakov. Mais Rachel aussi, Léa aussi, elle avait cette envie-là de ce monde. Elle avait cette nature de kiffer ce monde-là. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'elle est sortie, Léa. Et sa fille. Voilà, mais elle est sortie pour construire le peuple juif. Mais sa fille, Dina, quand elle est sortie, elle s'est fait violer. Et Rachid Abaye dit, elle était yatsanite comme sa mère. Telle mère, tel fils. C'est-à-dire que quoi ? Que Léa, elle aime sortir. C'est-à-dire qu'elle aime ce monde. Mais Léa, elle a réussi à se contrôler. En aimant tout ce monde, comme David Améler. David Améler, il avait toute la nature de Esav. Tu entends ? David Améler, il a tué une tonne de monde. Ok ? Il a eu des femmes. Il a tué une tonne de monde. Mais tout ce qu'il a fait... Il a pris le matériel, il a canalisé vers le spirituel. Donc on voit que Esav, il a mal utilisé le matériel. Il a pris tout le matériel du côté du néant. Et David Améler, qui s'appelle aussi Rouge, lui aussi, il avait toute cette nature-là, cette envie d'avoir des femmes, de tuer, tout ça. Et il a fait tous ces trucs-là, mais tout pour le spirituel. David Améler, il ne peut pas construire le Beit HaMikdash. C'est Shlomo Améler qui va le construire. Parce que ses mains, ils sont remplis de sang, David Améler. Ils sont remplis de sang parce qu'il a tué, mais il a tué des choses pour faire le calme, pour faire l'ordre dans le peuple juif. Esav, il devait être comme ça. Esav, il n'a pas réussi à faire ça, donc Yaakov, il est obligé de lui racheter. Et Léa, maintenant, elle va venir, maintenant que Yaakov, il a racheté, donc automatiquement, Léa, qui appartient à Yaakov. Parce que maintenant, Yaakov, il a pris aussi le travail de Esav. Donc c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il prend sa femme. Donc on voit tout le Inyan, déjà le Inyan de, comment on le voit, je vous dis un Chaye Adam, j'ai peur de le dire, mais il faut bien le comprendre, il ne faut pas le comprendre au sens du terme. Le Chaye Adam, il dit qu'une personne, qu'est-ce qu'on a dit? Que le mal, il a besoin de carburant. Et s'il n'y a plus de... Donc son carburant, c'est le bien, c'est les bonnes mitzvot, ce que tu fais. S'il n'a plus de carburant, il meurt. Ok? Il dit, comme, il dit le Chaï Adam, écoutez, dans les Chod, le Chaï Adam, ça c'est faire d'Alacha, il ne fait pas du Moussa. Il dit le Chaï Adam, il dit qu'il y a des fois des Réchaïm, des gens qui font, des païens de païens, ils font rien. Et puis, Tom, ils ont un petit réveil, pendant la Seret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence, ils font un Tshuva. Écoute ce qu'il dit le Chaï Adam. Il dit que des fois, cette Tshuva-là, c'est le Yetzahara qui fait que la personne. Elle fait tshuva pour donner au carburant au mal. Tu sens pas? Puisque le mal, c'est tellement mal maintenant, la personne a fait tellement de péchés, donc il est mal. Maintenant, le carburant, il n'a plus de carburant, il n'a plus d'essence. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique du bien pour le reprendre. Tu sens pas? Ouais, ça fait mal ça. Bon, ça décourage. C'est pour ça qu'il faut bien le comprendre sur Réadam. Il ne faut pas le dire, pas le répéter parce que les gens ils vont dire c'est comme ça. Chazé Shalom, Hachem, il accepte tout le monde, Hachem, il. Ouais, mais pour vous dire qu'il faut savoir que comment ça marche tout le système de la Sitra Chara, et donc il faut faire attention. Vous savez que toute chose qui est facile, ouais, quand on te propose une fois, on raconte que le Rabbin de Volozhin, il allait chez le Gaon de Vilna, il a dit j'ai envie de faire une yeshiva. Qu'est-ce que tu en penses? J'ouvre une yeshiva? Le Gaon de Vilna, il a dit non, tu n'ouvres pas. Un an après de Volozhin, il dit on est obligé d'ouvrir une yeshiva. Est-ce que tu es d'accord? Le Gaon de Vilna, il dit, vas-y, fonce, ouvre. Alors après, il dit, l'année dernière, je voulais, tu voulais pas. Maintenant que je suis plus tellement chaud, tu veux? Il dit, oui. Parce que l'année dernière, je t'ai senti que tu avais trop envie. Quand on a trop envie, ça veut dire que c'est le... Hein? C'est pas forcément... Exactement, c'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce que quand on a trop envie, ça veut dire peut-être que c'est le kavod qui... Tu as envie d'être un rave. J'ai envie de montrer que tu as un bon et tout ça. Donc en fait, je ne le fais pas avec une intention, les Shem Shamaïm. Mais quand tu es revenu maintenant et j'ai senti que c'est déjà plus un gros kiff de Fanny Shiva, c'est une grosse galère, ouais, là je te dis vas-y. Ouais, parce que c'est quand c'est dur que c'est là qu'on réussit. Ouais. Donc les Maasés, Ravota, ici, une personne, n'importe qui, vous contrôlez. Et comme je dis toujours, c'est des choses que, par exemple, pendant les vacances, comment ça arrive? Le plus que ça arrive, c'est les vacances. Statistiquement parlant, c'est les vacances qu'on fait ces bêtises-là. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, comme on glande et on ne fait rien, donc on tourne dans le lit comme un shawarma, on tourne, et tu tournes, et tu retournes, et tu tournes, et puis Tom, oh, je fais une bêtise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dormir tard et se lever tôt pour être sauvé. Tu es fatigué, tu dors et tu te réveilles. Tu te réveilles vite fait et tu vas arrêter de faire et tu te rallonges plus, ça y est. Ok? Deuxième chose, ne pas regarder toutes les choses qui ne sont pas bien, quand on va essayer de se préserver de toutes ces choses pas bien. Le type, il craque de voir un film. Alors, voir un film de bagarre. Voir un film de... Ouais, c'est déjà plus sympa, un film de bagarre. Qu'est-ce que tu regardes des films romantiques? Non, c'est vrai. Regarde des choses bien. Troisième chose, faire attention aux yeux. Très important. Plus la personne a fait attention aux yeux, plus tu donnes. On sait que il y avait le José de Lublin, il a mis quelque chose sur ses yeux, un bandeau sur ses yeux. Pendant 8 ans, je crois, il n'a pas regardé. Et comme il ne regardait pas, donc comme il ne donnait pas au matériel de la vue, sa vue, elle était spirituelle. Il arrivait à voir des choses graves. Bon, c'est son niveau, ouais. Mais pour te dire des choses, moins tu donnes au matériel, plus tu vas dans le spirituel. Plus tu vas, dès que tu fais moins ces bêtises-là, donc tu vas donner moins de force au mal. Donc tu auras plus envie d'étudier et ouais, donc fais attention que il y a écrit dans les Sfarim, il y a Minag et Yerushalayim, je l'ai déjà dit peut-être. Il y a Minag et Yerushalayim que les enfants n'accompagnent pas le père. J'ai déjà dit que les enfants n'accompagnent pas le père pour l'enterrement. Pourquoi? Parce que quand les enfants ils accompagnent le père, mais il y a aussi tous les neshamot que le père il a fait, ouais, tous les trucs, les sorcières en vin qu'il a fait, les neshamot aussi ils disent c'est notre papa, on l'accompagne. Ok, donc les accusateurs, ils sont là, ils le défoncent. Il y a écrit encore plus dans les Sfarim HaKadoshim que les vrais enfants, enfin les enfants en virtuel, en réel, ils retournent chez eux. Mais ceux qui sont en virtuel, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la tombe, ils fracassent le corps. Mais le pauvre, la douleur qu'il a, on peut pas s'imaginer. Donc mieux vaut pas accompagner. Donc tout ça pour te dire, combien c'est, il faut faire attention de à tous ces trucs-là. Encore plus, il y a écrit que ça t'enlève de la parnassa. Parce que imagine tu as une famille avec 3-4 enfants. Tu reçois 2000 euros par mois. Ok, ta paye, tu reçois 2000 euros. Donc dans tes 2000 euros, tu fais ton calcul. Voilà, je donne pour les enfants, l'écolage, 200 euros, le manger, 500 euros. Tac, ouais. Donc tu calcules tout. Mais t'as pas, donc tu as calculé pour tes 3 enfants. Mais tu as fait des autres enfants, frérot. Ces enfants aussi veulent manger, ok? Quand ils n'ont pas de carburant, ils ont besoin de manger aussi. Donc ils te mangent ton argent, ok? Ah, ma machine à laver s'est cassée. Ah, ma voiture s'est cassée. Ah. Tout ça, tous ces trucs-là, c'est eux qui t'aspirent. Donc, Rabotai, combien c'est important de faire attention? Ouais, de faire. C'est très dur, je sais que c'est très dur. Mais quand c'est très dur, on a dit, ça veut dire qu'on monte. C'est quand c'est dur qu'on. C'est parce que c'est dur, c'est là qu'on voit un salaire. On est là pour galérer. On est là pour que ce soit dur. C'est dur, là. C'est dur, les deux. Ouais, on est dans un monde. Quand on monte, quand c'est dur, c'est là qu'on a le salaire. Ouais, il n'y a rien de facile. Comme j'ai dit, l'argent facile, mais ce n'est pas de l'argent clean. Quand on travaille, on a. D'accord ? Il n'y a pas des gens qui travaillent et qui gagnent l'argent sans travailler. Ça n'existe pas. Ce monde-là, il est fait pour. On travaille, et quand on travaille, celui qui travaille, il reçoit du salaire. Hachem lui donne du salaire. Et sachez que Hachem Bokhu, il voit les efforts que chacun fait. Faire très attention, aller au mikvé après. Ouais, c'était pas ça, je ne vais pas parler de ça, ok ? Mais je dis peut-être que si on va expliquer un peu comment ça marche, peut-être que ça va nous faire un peu de moussa. Juste pour finir, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Non, je n'ai pas dit au cours. J'ai dit comme ça parce que pas tout le monde a écouté. Et c'est caché avec ce qu'on a dit. Eliezer, Avram, il envoie son serviteur Eliezer pour aller chercher un chidour. Un chidour, c'est quoi? C'est une femme. Cette femme-là, elle va construire tout le peuple juif. Donc, c'est une responsabilité terrible. Elle envoie. Donc, il dit à Avram, et il fait jurer, il dit voilà, Yishlach Malacho, je vais t'envoyer un ange qui va t'aider. Qu'est-ce que Eliezer, quand il arrive devant le puits, il dit Hachem, Akrena, fais en sorte. Akrena, c'est la traduction littérale, c'est fais-moi un hasard. Ok? Fais-moi, dévoile-moi la fille qu'il faut. Donc, maintenant, il y a un problème. C'est quoi ce Akrena? C'est quoi Akrena? Akrena, c'est un hasard. Pourquoi Eliezer demande un hasard? La même chose, Ruth, quand elle va chercher, elle va chercher un Yavam, quelqu'un pour lui faire, pour se marier avec elle, pour lui récupérer son mari, il est mort, après qu'elle s'est convertie, elle va chez Boaz, qui était le plus proche. Et elle allait, Mlachon Mikre, Vayakar, aussi une façon hasardeuse. Pourquoi? Harry, c'est la mère de la royauté. Pourquoi elle va de façon hasardeuse? Elle devrait aller de façon fixe. Rav Pinkus, il dit un truc très joli. Il dit qu'il y a une différence fondamentale entre Ashgacha Pratit. C'est quoi Ashgacha Pratit? C'est quand Hachem nous chapote, ouais, et Akrena. Il dit par exemple, un exemple. Si une branche, elle tombe de l'arbre. Si on dit que c'est une façon Ashgacha Pratit, c'est Hachem nous chapote, c'est-à-dire qu'Hachem il envoie un message. Ça passe d'un ciel à un autre ciel, jusqu'à ce que ça arrive dans le monde des malachim. Quand ça arrive dans le monde des malachim, d'un malach à un autre malach, plusieurs niveaux, jusqu'à ce qu'un ange il prend la feuille, il la pose par terre. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. Et c'est quoi Akrena, le hasard chez Hachem? C'est qu'Hachem, il n'envoie aucun intermédiaire. Il envoie Hachem, il vient directement lui, il prend la feuille, il la dépose par terre. Donc qu'est-ce qui est mieux, Ashgacha Pratit ou Akrena? Akrena. Eliezer, Avram, il pensait que le malachim, ça suffisait. Qu'il dirait que Yitzhak, il a dit à Eliezer, ne demande pas un malach, demande que ce soit fait par Hachem directement. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit. À Krena, Ruth, elle va construire le David, elle va sortir David, le Melech HaMashiach, ouais, David, toute la royauté, elle sait qu'il y a la mafia, ouais, toute la Sitrachara, toute la force du mal, elle est derrière. Ils sont avec des kalaches, tous avec des viseurs, tireurs d'élite, juste à temps pour tirer. Ok, si Ruth maintenant, elle vient de façon Ashgacha Pratit, elle vient de façon par des intermédiaires, elle va se faire défoncer. Ok, toutes les forces du mal, ils vont essayer de l'aspirer et essayer de bloquer pour pas qu'elle fasse ça. Et la même chose d'Eliezer. Eliezer dit, Akrena, je veux Hachem que toi tu viennes. Si toi tu viens, la force du mal, personne ne peut s'approcher de toi. Et c'est magnifique que Bémet, on voit qu'après, quand il répète il répète toute l'histoire, tout le récit à son beau-père, il ne commence pas à lui raconter les détails. Parce que qu'est-ce qu'elle va piger? Tu vas expliquer à Bethuel, un type qui n'est pas dedans, tu vas expliquer, tu sais, Hachem, Ashgara Prati, tout ça. Laisse tomber, il a dit, c'est Hachem, il m'a aidé, c'est tout, baston. Basta. Je finis. Yitzhak, dans la fin de la paracha, aussi la même chose. Yitzhak, il demande à Esav, va me chercher un gibier, ok ? Deux secondes après, il revient, et qu'est-ce qui se passe ? Quand il revient, Yitzhak, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es un chasseur, tireur d'élite, en deux secondes, tu as réussi à le chasser ? Alors, il dit, non, Akrena. Il dit ce mot-là. Et de suite, Yitzhak, il dit, dis-moi, tu es Esav, toi ? Alors Rachid, il dit, pourquoi il a demandé tu es Esav ? Rachid dit parce qu'il lui a dit le nom d'Hachem, et Esav, il n'a pas l'habitude de dire Hachem. Mais d'après ce qu'on dit, non, Akrena, puisqu'il a dit Akrena, il a dit ce mot-là, c'est-à-dire que c'est un niveau, c'est-à-dire que Hachem me l'a donné directement, Israël, il a capté, il a dit, c'est pas logique qu'il se passe comme ça, ça arrive comme ça, c'est pas, il y a une embrouille là. Entre parenthèses, le Bet Alevi dit un beau chidouche, le Bet Alevi dit un paracha, il y a écrit, « Akol, kol Yaakov, va yadaim et desav. » Yaakov, il se déguise, il met des poils comme ça, il se déguise en Esav, il arrive chez son père, et qu'est-ce qu'il fait ? Son père lui dit, « Dis-moi, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob, les mains, c'est d'Esav. » Il y a une embrouille, ok ? Alors, je te donne une question, quand il y a une embrouille, bah stop, qu'est-ce que tu bénis alors ? Tu as 50-50, 50 tu penses que c'est une embrouille, 50 tu penses que c'est la vraie. Alors, c'est quoi ? Arrête ! Pourquoi Yitzhak l'a béni ? La réponse, elle est que le Bet Alevi dit, mais je vous dirai un autre chat la semaine prochaine, le Bet Alevi dit un méga chidouche. Il dit que Esav, c'était le rusé des rusés. Il a dit à son père, tu sais, peut-être que mon frère, il va essayer de me piquer la bracha, ok ? Donc peut-être qu'il va se déguiser en Esav. Mais quand il va se déguiser en moi, il va se la jouer avec ma voix, d'accord ? Il va jouer la voix d'Esav, une voix grosse. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Le code ? C'est que moi, j'arrive poilu, mais avec la voix de Yaakov. Quand Yaakov, maintenant, il arrive, et il arrive genre naturel, avec des poils, mais il parle avec la voix de Yaakov, c'était le code. Donc, Esav, donc Israël, il a béni. Hazak Baruch, à la semaine prochaine.